Voilà, donc nous allons continuer et en réalité clôturer ce que nous avons commencé il y a plusieurs dimanches sur la question du service dans l'église locale. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas voir exactement la même chose que les autres fois. Ce ne sera pas une continuité, mais ça reste dans le même thème et qui concerne le service dans l'église locale. Alors, je vais commencer peut-être par faire un rappel de ce qu'on a pu voir les dernières fois. Nous avons vu les dernières fois, nous avons parlé, nous avons eu un enseignement sur quelques principes bibliques pour une église foisonnante de vie et de fruits. Et nous avions dit que Dieu veut que son église porte du fruit. Dieu veut que son église soit pleine de vie, que son église porte du fruit, et cela a lieu notamment et surtout au travers du service dans l'église. C'est par le service que nous accomplissons dans l'église, c'est par les dons que nous mettons au service de Dieu, par nos ministères, par nos services, par notre engagement, que l'église avance, que l'église se construit et que l'église accomplit sa mission. Et nous avions rappelé que l'église a une mission essentielle. La mission, non seulement d'être le lieu à partir duquel l'évangile parcourt un chemin, la mission d'être le lieu où les enfants de Dieu se rassemblent, où ils grandissent dans la foi, où ils apprennent à connaître Dieu, à connaître sa parole, à s'aimer les uns les autres, à marcher selon Dieu dans le monde, donc une église où on forme des disciples. Et donc on a dit que la mission de l'église vis-à-vis du monde est unique. Seule l'église a la mission d'annoncer la bonne nouvelle, de former des disciples, de prêcher la parole de Dieu, et que, étant donné cette grande mission, cette grande tâche que Dieu donne à l'Église, eh bien, il y a tout un ensemble de principes aussi qu'il donne dans la Bible pour que nos églises soient des églises vivantes, qui grandissent, qui avancent, qui portent du fruit, un fruit spirituel, pas des églises stériles, où chaque année le Seigneur vient visiter en disant bah, « c'est tout le temps la même chose, pas d'avancement, pas de croissance spirituelle, pas d'annonce de l'Évangile, pas d'avancement dans la compréhension des choses de la parole, pas d'avancement dans l'obéissance, c'est tout le temps la même marmelade, la même compote, et il n'y a pas d'avancement. » Non, pour Dieu, eh bien, le peuple de Dieu doit être un peuple qui avance et qui porte du fruit. Et donc nous voulons une église, nous voulons que notre église soit non seulement foisonnante de vie, qu'il y ait de la vie. Hein ? Et la vie, ce n'est pas seulement le dimanche matin, mais une église vivante, une église de pierre vivante que nous sommes. Mais une église aussi qui porte du fruit. Et donc par rapport à cela, nous avons vu un certain nombre de principes. Le principe de l'implication globale, le principe de la spécialisation, le principe de la coordination, le principe de la transmission et de la formation, et le principe de l'autorité, nous en avons donc vu 5. Alors, voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas revenir là-dessus, mais j'inviterai les personnes qui n'étaient pas présentes à réécouter ces messages. Et en particulier, les personnes qui servent dans l'Église ou qui se destinent à servir dans l'Église, à réécouter, puisque ce sont des enseignements qui n'ont pas pour but de prendre du temps, mais de pouvoir aussi adapter le fonctionnement de nos fonctionnements, le fonctionnement de nos services, le fonctionnement de l'Église. Et donc, si vous servez dans l'Église ou si vous voulez servir, c'est important que vous ayez en tête tous ces principes. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Vous êtes contents ? Mais c'est toujours le même thème. Nous allons parler de quelque chose qui est plus important que les dons. On a parlé des dons, n'est-ce pas ? Les dons spirituels, chacun en a reçu un avec lesquels nous sommes censés servir. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui est plus important que les dons. De quelque chose qui est plus important que la formation. On a dit que pour servir Dieu, nous devons être formés, nous devons accepter d'apprendre, nous devons accepter que des personnes nous expliquent, nous devons accepter de nous remettre en question. On a parlé de cette importance de se former. De quelque chose qui est plus important que la connaissance biblique. La connaissance biblique a son sens, son intérêt, mais nous allons parler de quelque chose qui est plus important que la connaissance biblique. On pourrait dire aussi, nous allons parler de quelque chose aujourd'hui qui est plus important que le travail. On a dit que dans le service de Dieu, comme dans tout, il faut travailler, il y a des choses à faire, il y a un travail à accomplir. Plus important que le travail, plus important que la formation biblique, plus important que la connaissance biblique. Nous allons parler des attitudes qualité et de la vie spirituelle nécessaire pour le service de Dieu. Plus important que les dons, plus important que la formation, plus important que le travail, nos attitudes, nos qualités de cœur et notre vie spirituelle si nous voulons servir le Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus essentiel, de plus important dans le service de Dieu. Ce sont les qualités que nous avons, ce sont nos dispositions de cœur et c'est la vie spirituelle qui accompagne notre service. Ça, c'est high level, c'est au-dessus de tout, rien de plus important que ça. Nous sommes donc appelés à servir Dieu avec les bonnes attitudes et les bonnes dispositions. Nous ne sommes pas appelés à servir Dieu pour servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu comme il veut que nous le servions, selon sa volonté, avec les attitudes qui lui plaisent, avec les comportements qui lui plaisent, avec la vie spirituelle qui lui plaît. Très très important ainsi, la vie spirituelle, notre relation avec Dieu, notre vie dans l'esprit, notre relation avec le Saint-Esprit, notre dévotion personnelle, nos qualités, nos dispositions de cœur, nos attitudes sont le terreau dans lequel vont se développer nos dons spirituels et nos ministères. En d'autres termes, le service que nous le faisons à partir de ce que nous sommes, à partir de notre relation avec Dieu, à partir des attitudes que nous allons avoir, à partir du cœur que nous avons, de notre comportement, de la façon avec laquelle nous nous attachons à Dieu, nous marchons avec Dieu. Et donc, c'est un terreau, c'est à partir de là que tout va venir. C'est à partir de là que tout doit venir. Et donc, il est très très important, pour que nous ne soyons pas des serviteurs recalés devant Dieu, que nous apprenions ces choses-là. On peut avoir des grands dons, on peut avoir fait des longues études, on peut travailler beaucoup, mais si Dieu ne met pas le sceau de son approbation sur notre service, ça ne vaut rien. Si notre service est fait avec des mauvaises dispositions, avec des mauvais comportements, ou sans vie spirituelle derrière, c'est comme on dit, c'est zéro. C'est hors sujet. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et peut-être que c'est une question qui résout de nombreux problèmes ou de nombreuses questions qu'il peut y avoir dans l'Église. De nombreuses questions qu'il peut y avoir dans l'Église. Ainsi donc, plusieurs aspects sont essentiels pour le service de Dieu. Les qualités de cœur que nous avons, nos dispositions intérieures, nos comportements, nos attitudes, notre vie spirituelle. Ça, c'est le plus important. Et je dirais même, c'est ça que Dieu regarde. Parce que les dons, on les a reçus, on n'a rien fait pour, on les a. Bon, on t'a donné des dons, on ne va pas te dire que c'était bien d'avoir des dons, c'est Dieu qui te les a donnés. Donc on n'a pas de mérite d'avoir des dons, ou en tout cas, ce n'est pas ça qui fait la qualité de notre service. La formation, quand on a été à l'école biblique, on n'a rien fait d'autre que d'aller à l'école biblique, on a fait des examens, on a réussi les examens, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'être spécial pour ça. Quelqu'un qui travaille beaucoup pour l'Église, oui. Par contre, nos attitudes, nos qualités de cœur, notre comportement, notre vie avec le Seigneur, ça c'est important. Ça, c'est essentiel. Et c'est peut-être ce qui explique que parfois des personnes servent sans que leur service n'ait l'impact qu'ils devraient avoir. Ou c'est ce qui explique aussi que quelques personnes souhaiteraient servir et ne peuvent pas servir parce qu'il y a des problèmes sur ces aspects-là. Et ce sont les aspects les plus essentiels. Vous avez déjà tous lu, évidemment, les épîtres à Timothée, les épîtres à Tite, dans lesquelles l'apôtre explique à ses collaborateurs dans le ministère, quelles sont les conditions pour choisir des anciens. Et j'avais déjà dit une autre fois que si on lit ces conditions, il n'y a pas de conditions de don. Il n'y en a pas. Nulle part on dit il doit avoir tel don. Il n'y a pas de conditions de formation. Il n'y a pas de conditions de statut social. Il y a des conditions d'attitude, de comportement, de disposition de cœur. Et de façon d'être. Et donc, c'est ça le plus important, si nous voulons servir Dieu d'une façon qui lui plaît. Il y a donc des dangers. Si nous avons un mauvais cœur, si nous avons des mauvaises attitudes, si nous avons une vie spirituelle stérile, que nous ne prions jamais, que nous ne lisons jamais la Bible, que nous ne nous attachons pas à Dieu, eh bien, notre service sera infructueux. Il ne portera pas de fruits, notre service. Quel que soit ce que nous faisons, d'ailleurs. nos dons seront étouffés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas complètement s'exprimer, d'accord ? Ou alors, ils seront détournés de leur but, c'est-à-dire qu'ils n'atteindront pas ce pour quoi Dieu les a envoyés. Dieu nous a donné des dons pour certaines raisons, et ils n'atteindront pas ce but. Et ultimement, si nous avons mauvais cœur, mauvaise attitude, mauvaise vie spirituelle, ben notre service ne plaît pas au Seigneur, alors. Dieu n'approuve pas notre service, alors. Il voit que nous servons, mais il ne met pas son cachet en disant « ça, ça me plaît », parce que ce n'est pas fait comme il le souhaite. Matthieu 7, 15 à 20, on le connaît, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dehors, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Verset 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ainsi donc, ce qui compte, là on parle des faux prophètes, mais ce qui compte, c'est donc pas d'avoir des paroles de Dieu, avoir à dire des choses extraordinaires que personne n'a jamais entendues. Ce qui compte, c'est donc pas d'avoir des dons hors du commun. Ce qui compte, ce sont les fruits concrets que nous portons. Et les fruits que nous portons, ils découlent de notre relation avec Dieu, de nos attitudes, de notre comportement et de notre cœur. Et Matthieu 7, 21 à 23, qui suit en fait le passage qu'on vient de lire, dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà. Le texte ne remet jamais en question le fait qu'ils aient réellement prophétisé ou qu'ils aient chassé des démons. Le texte ne remet jamais ça en question. En d'autres termes, ce sont des gens qui peut-être visuellement, quand on les regardait, étaient en train de servir Dieu et leur service avait même du fruit. Mais il n'y avait pas les attitudes, il n'y avait pas le cœur, il n'y avait pas la vie spirituelle qui vont avec un service correct de Dieu. À ne pas oublier, notre service est accompli pour Dieu et devant Dieu. Quand bien même nous servons des gens que nous voyons, que nous touchons ou que nous faisons des choses très concrètes, bien notre service est un service qui est accompli pour Dieu et devant Dieu. C'est lui que nous servons. C'est lui que nous servons, c'est-à-dire que c'est pour lui, mais c'est devant lui aussi. C'est-à-dire qu'il nous voit servir. Et nous devons, quand nous servons, ne pas oublier que c'est devant lui que nous servons. Puisque c'est ça aussi qui déterminera un certain nombre de nos attitudes et de nos comportements. Nous sommes donc appelés à travailler notre caractère. C'est 2 Pierre 1, 3 à 13 qui nous parle de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la maîtrise de soi, de la patience, de la piété, de l'amitié fraternelle, de l'amour, tout un ensemble de qualités spirituelles qu'on doit développer. Et si on est un grand serviteur mais qu'on n'a pas ça ou qu'on ne développe pas ça, c'est zéro. Nous sommes donc appelés à développer un caractère qui plaît à Dieu, pour toute notre vie d'ailleurs, pour tous les aspects de notre vie, pour nos relations, pour notre famille, mais aussi pour le service de Dieu. Quelques dispositions de cœur que nous allons voir en rapidement. On va en voir quelques-unes, mais très rapidement, très succinctement, parce que vous avez tout ça déjà. Vous êtes déjà des gens qui ont toutes les dispositions de cœur et tout, donc ça ne sert à rien qu'on s'arrête là-dessus. Vous connaissez. Donc je vais juste le dire pour moi, pour ne pas que j'oublie, comme ça je me souviens. Voilà. Alors, premièrement, ça c'est pas moi, Jacques. Les mots coupés, c'est pas moi. Les fautes d'orthographe, c'est moi. Mais les mots coupés, c'est pas moi, ça c'est Olivier. Ça. C'est parce qu'il a une machine trop sophistiquée qui bouge à chaque fois mes PowerPoint. Donc voilà. Mais voilà. Mais faudrait peut-être que j'en achète une comme toi, c'est peut-être ça. Comme ça, ce sera compatible. Ouais, donc... Bon. Notre motivation principale dans le service, l'amour. Notre service doit être motivé par l'amour. Et tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour. C'est Jésus qui demandait à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ? Tu m'aimes, alors paie mes brebis. » C'est fou parce qu'on. Jésus aurait pu dire à Pierre, est-ce que tu aimes les brebis? Oui, ben alors occupe-toi d'elles. Mais non, c'est est-ce que tu m'aimes moi? Alors occupe-toi des brebis. Donc c'est parce que j'aime Dieu que je sers les autres. C'est l'amour que j'ai envers Dieu qui est la motivation, le carburant pour que je serve les autres. Nous devons donc servir par amour et pas par obligation. Pas parce qu'on nous oblige. Nous servons donc Dieu par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour les autres. Alors l'idée, c'est quoi? C'est que notre amour pour Dieu doit être la source. C'est sûr que notre amour pour les autres va nous aider. Mais nous devons savoir qu'il y aura toujours des moments dans notre service où notre amour pour les autres ne suffira pas. Parce que les autres nous énerveront, ils nous fatigueront, ou nous serons aigris. Mais en ressuscitant ou en veillant sur notre amour pour Dieu, eh bien nous aurons assez de carburant pour aimer les autres. Il y a des gens pénibles, vous savez. Vous êtes pénible, par exemple. Donc pour vous aimer, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ouh là là. Voilà. Mais de la même façon qu'on peut dire que les autres sont pénibles, soi-même on est aussi pénible. Donc quand nous voyons que d'autres sont pénibles envers nous, nous sommes aussi pénibles pour d'autres. Et ça peut parfois rendre difficile le service. Par contre, si nous aimons, si nous servons parce que nous aimons Dieu, eh bien là nous avons de quoi Dieu nous renouvelle pour que nous puissions continuer à aimer les autres et l'aller à les servir. Nous devons donc servir sincèrement, sans désir de profit ou de réputation personnelle, et bannir tout service égoïste ou égocentrique. Servir pour nous, pour notre plaisir, pour notre joie, mais notre service doit être pour Dieu et pour les autres. C'est un don que nous faisons aux autres. Ah oui, il a vraiment tout changé en fait. Hein. Regarde, même le mot amour, il est coupé en deux. C'est fou hein, quand même. Mais c'est pas grave, hein, vous avez compris. Donc, voilà. Nous devons donc adorer Dieu, servir Dieu en servant les autres. Avoir un cœur pour le peuple de Dieu, aimer les autres. Hein? Qu'est-ce qui va faire qu'on va, qu'est-ce qui a fait que cette semaine la salle a été nettoyée? Elle a été nettoyée? Ah voilà, elle semblait bien. Quand je suis arrivé mercredi, je me suis dit, ouh là là, pourquoi est-ce que les... Je ne sais pas qui a fait ça, hein? Je ne sais pas qui est passé pour nettoyer la salle. Mais qu'est-ce qui a fait que les personnes qui l'ont fait l'aient fait? Par amour pour les autres, par amour pour Dieu et par amour pour les autres. Parce qu'on n'a pas envie d'arriver dans une salle où c'est tout sale, où il y a des petites souris qui courent partout. Non, on a envie d'avoir une salle propre et on est bien pour servir Dieu. Et donc, voilà la motivation. Mais donc, tout ce que nous faisons peut trouver cette motivation dans l'amour que nous avons. Et nous adorons donc Dieu, nous servons Dieu en servant les autres. Nous sommes appelés à servir avec amour, mais nous sommes aussi appelés à servir avec joie et avec zèle. Ayez du zèle et non de la paresse, nous dit l'Écriture. Autre qualité de cœur indispensable pour le service de Dieu, la stabilité. La stabilité. Nous devons faire preuve de stabilité dans notre ministère, de stabilité dans notre engagement, de stabilité dans nos attitudes et dans nos dispositions de cœur. C'est une condition essentielle pour servir Dieu dans une église locale. Nous devons donc être stables, être constants. Et la stabilité, on dit souvent être d'une humeur égale. La stabilité est importante. C'est une condition essentielle pour que nous puissions servir Dieu d'une façon qui lui plaise. Une façon qui lui plaise. Hein? Et donc, la stabilité, elle touche plein de domaines. Elle touche notre façon d'être, mais elle touche aussi notre engagement. Hein? Je vous rappelais l'histoire d'un frère qui était convaincu qu'il était appelé à servir dans l'Église, il voulait servir Dieu, il voulait prêcher, il voulait présider, il voulait servir dans l'Église, mais il venait au culte quand ça lui disait, une fois tout. Et quand on lui demandait, ah ben non, j'ai des travaux, je fais mes travaux. Oui, mais tu veux servir dans l'Église, il faut être stable dans ton engagement vers l'Église, stable dans ta présence à l'Église. Hein, donc, ce n'est pas seulement comme nous voulons, ce n'est pas quand nous voulons, mais nous devons faire preuve de stabilité dans notre service de Dieu. Stabilité, cette stabilité, c'est aussi notre capacité à être constant dans notre service et à ne pas avoir un ministère qui dépend de nos petites humeurs. Ça aussi, dans nos églises, il y a beaucoup, pas ici, mais dans les autres églises, les mauvaises églises, Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont leurs humeurs, et quand ils ont envie, ils font, quand ils n'ont pas envie, ils font pas, quand ça leur va, quand tout dans l'église leur convient, ils servent, quand ça leur convient pas, ils arrêtent, et ils pensent qu'ils peuvent faire comme ça. Et ça ne va pas. Ce ne sont pas des façons de servir qui plaisent à Dieu. Nous devons être stables dans notre engagement. Et nous devons avoir des engagements qui sont clairement définis devant Dieu, et nous devons être stables là-dedans. Et c'est le rôle des responsables de veiller à ça aussi, pour ne pas avoir des gens instables qui servent et qui déstabilisent tout le monde. Hein. Et c'est pas, je vais donner un exemple, mais je donne cet exemple-là à l'aise, parce que voilà, ici c'est pas le cas. Mais c'est un vrai, je ne l'invente pas celui-là. C'était un frère. Chaque fois que quelque chose, c'était un frère, donc son service dans l'église, c'était de projeter les champs. Chaque fois que quelque chose dans l'église ne lui convenait pas, il ne venait pas. Et vous vous débrouillez pour projeter les champs. Il n'est pas venu parce que voilà, il aurait voulu que voilà, ça a duré trop longtemps, tel jour, ça. Ah donc voilà, c'est quand il a envie. Ouais, oui, je le dis à l'aise parce qu'Olivier n'est pas comme ça, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais ça fait partie des responsabilités des responsables de veiller à ce que ça n'arrive pas. Nous servons Dieu de façon constante. Nous nous engageons dans le service de Dieu, pas seulement quand nous avons envie, mais nous nous engageons dans le service de Dieu. Et comme on dit, être d'une humeur égale, c'est-à-dire, voilà, quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, eh bien, je suis conscient de ma responsabilité envers Dieu. Et normalement, c'est le genre de choses où on devrait dire, hé, mon ami, une fois, hein, ça, mais pas deux, hein, parce que sinon, tu peux aller t'asseoir. Hein. C'est comme ça que ça devrait être. Parce que nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Et ce qu'on dira à chaque fois, et c'est une vérité que personne ne peut contester, c'est que personne ne fait ça à son travail. Personne. Personne ne va dire « je ne me présente pas à mon travail parce que je ne suis pas content avec ce qui se passe ». Donc pour un petit employeur de rien du tout, nous sommes toujours au service. Parce qu'il y a une paye à la fin du mois. Et pour Dieu, le maître de l'univers, c'est quand ça nous chante et c'est lui qui doit s'adapter à nos agendas. Ça ne va pas. Nous devons nous engager sérieusement devant Dieu. Notre service doit donc être un engagement fidèle. Est-ce que l'on peut compter sur moi? Est-ce que je suis fidèle à mes engagements? Est-ce que je sers Dieu avec persévérance, avec application, avec détermination? Est-ce que je suis fiable? Est-ce que je suis loyal? Est-ce que je suis constant, persévérant? Est-ce que je suis stable, solide? Apocalypse 2,19, c'est une éloge. Que l'ange, que Dieu fait finalement à cette église. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton service fidèle. Ton service, Dieu récompense la fidélité. On pourrait même dire que c'est peut-être le critère le plus important dans le service, c'est que nous soyons fidèles à notre service. Ton service fidèle, ta constance, tes dernières œuvres. Vous savez, dans la fidélité, c'est quelque chose, quand on parle de la fidélité, on parle de la constance. Dans le monde chrétien, il y a des gens qui croient que certains sont nés avec le gène d'être dans un service fidèle. Donc il y a des gens qui croient que voilà, les autres qui servent fidèlement, eux, ils ont toujours envie. Ils sont toujours motivés, ils sont toujours de bonne humeur, ils sont toujours contents. Et donc c'est pour ça qu'ils le font, mais moi, je n'ai pas ce gène-là, donc voilà, je ne sais pas. Et donc on oublie de vue que ceux qui servent fidèlement, ils se font aussi violence. Ceux qui servent fidèlement, il y a des jours où ils n'ont pas envie non plus. Ceux qui servent fidèlement, ils ne sont pas forcément contents de faire ce qu'ils font, ou ils ne sont pas tellement forcément contents de comment ça se passe, mais ils le font quand même. Et donc nous devons être des gens qui nous plaçons devant Dieu, et comme disent les Juifs, nous devons servir Dieu comme si nous étions les seuls à pouvoir le faire. Nous devons servir Dieu comme si, voilà, je suis la seule personne dans l'univers à pouvoir servir, donc je m'engage à son service parce que c'est lui que je sers. Colossiens 4, 17. Et dit à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Prends garde au ministère que tu as reçu pour bien le remplir. Nous devons servir notre Dieu correctement. Cela va aussi avec un esprit de sacrifice, accepter de payer le prix du service, un esprit de service, un esprit d'abnégation aussi. Hein? Nous ne nous servons pas nous-mêmes et nous devons aussi accepter eh bien, les sacrifices qui s'attachent à notre service. D'accord? Quand on est serviteur de quelqu'un, ça nous coûte quelque chose. Et donc, dans notre service de Dieu, quel que soit ce que nous faisons, nous devons accepter aussi la part de sacrifice qu'il y a. Quand on sert dans l'église, parfois on vient au culte plus tôt. Parfois on vient travailler à l'église pendant la semaine. Quand on sert dans l'église, on a des choses à faire en rentrant chez soi. Quand on sert dans l'église, parfois on doit changer notre programme parce qu'il y a un truc qui change. C'est ça aussi, l'esprit de sacrifice. Être capable de servir Dieu et en acceptant aussi l'abnégation. En pouvant aussi nous oublier nous-mêmes, oublier nos intérêts pour pouvoir le faire, pour pouvoir servir Dieu d'une façon qui lui plaise. Dans 2 Timothée 2, 3 à 6, il est dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi ? Hein ? On aurait peur de dire ça aujourd'hui, hein, « Souffre avec moi Non, parce que souvent, nous voulons un service qui correspondent à notre confort et qui ne nous dérange en rien. Donc il faut que notre service ne dérange rien de notre vie. Voilà, ça doit me convenir. Souffre avec moi. Donc il y a un prix à payer. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas suivi les règles. Donc il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc ça veut dire, dans mon service, je dois être d'accord de payer le prix pour le service, pour plaire à celui qui m'a enrôlé. C'est clair, ça ouais. Mais aussi, nous devons travailler avec humilité. Nous connaissons ce texte de Philippiens 2, 5 à 11, nous le connaissons bien, qui nous parle de l'humilité de Jésus, qui n'a pas regardé à lui-même, ou qui n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, mais qui s'est dépouillé et qui s'est fait serviteur. Qui s'est fait serviteur. Nous sommes appelés à servir avec humilité. Premier élément de l'humilité, je ne suis pas indispensable. Dieu n'a pas besoin de moi. Ça, c'est la base du service de Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi. Si je ne suis pas là, il trouvera quelqu'un d'autre pour faire le travail à ma place. Dieu n'a pas besoin de moi. Et on pourrait même dire, l'Église n'a pas besoin de moi. Je ne sers pas pour être indispensable, parce que je suis indispensable, mais je sers par amour pour Dieu, pour la gloire de Dieu, et parce que je sais que c'est ma place. Et donc l'humilité, c'est de savoir que finalement, nous ne sommes pas grand-chose. Quel que soit ce que nous faisons, nous ne sommes pas grand-chose. L'humilité, c'est de savoir que tous les dons, les capacités, les appels que nous les avons reçus de Dieu par pure grâce, on en a parlé au tout début. Si tu es un grand évangéliste, c'est magnifique, mais c'est qu'une grâce. Si tu es un grand musicien, c'est magnifique, mais c'est qu'une grâce. Si tu es un grand administrateur d'église, gestionnaire de bâtiment, ce n'est qu'une grâce. Ce sont des grâces que nous avons, et nous n'avons pas à nous en glorifier, à nous prendre pour plus que nous sommes à cause de ce que nous avons. L'humilité, c'est aussi de reconnaître que j'ai besoin des autres. Nous sommes interdépendants, je ne peux pas faire sans les autres, je ne suis qu'un membre du corps. Et donc je dois reconnaître l'apport essentiel des autres dans mon service, parce que je ne suis qu'un membre du corps. L'humilité, c'est aussi de dépendre de Dieu, de reconnaître que sans Christ, nous ne pouvons rien faire, que c'est lui qui va nous communiquer la force, l'inspiration, la direction pour faire ce que nous faisons. Nous ne faisons pas par nos propres forces, mais nous nous confions en Dieu pour qu'il nous aide dans notre service, parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que par nous-mêmes, nous sommes voués à l'échec. Luc 17, 7 à 11, verset 10. Nous sommes des serviteurs sans mérite. En d'autres termes, l'humilité, c'est aussi de reconnaître que nous servons Dieu, et si on veut, on peut me le dire de façon tout à fait ultime, nous servons Dieu pour sa gloire, pour sa volonté, parce qu'il en est digne, mais on ne mérite pas de médaille pour autant. Nous sommes des serviteurs sans mérite. Nous ne faisons que servir celui qui est mort à la croix pour nous. C'est juste la logique des choses, en fait. Nous ne méritons pas des trophées ou des médailles parce que nous servons Dieu. Nous servons celui qui a tout donné pour nous. Et nous, nous lui donnons des petites miettes de notre temps. Voilà. Nous sommes des serviteurs sans mérite. Et nous devons garder cet esprit-là. Parce que sinon, ça nous fait devenir, comment on dit ça, des divas. Hein, des divas, enfin, je ne sais pas comment on dit pour les hommes, mais voilà. Donc des stars, quoi, des petites divas. On croit que Dieu dépend de nous et que sans nous, ben, le royaume de Dieu va s'arrêter. Et c'est pour ça que Jésus disait, oui, vous dites que vous êtes fils d'Abraham, mais si Dieu veut, les pierres qui sont là, ils peuvent en faire des fils d'Abraham. Hein. Nous devons servir Dieu avec une profonde humilité. Accepter d'être à l'école de Christ, c'est aussi l'humilité. Avoir un cœur d'apprentissage, apprendre, c'est aussi se remettre en question, grandir, et des disciples avant tout. Avoir un cœur de service, donc. On en a parlé, donc je vais rapidement servir et non chercher à être servi. Servir et non pas dominer. Donner et pas chercher à recevoir. Hein. Il y a des gens qui, et on l'avait dit quand on parle qu'on a parlé du cœur de service, il y a des gens qui ne sont intéressés que quand ils ont leurs intérêts dans une histoire. Donc si je repère le moment où ça va m'apporter quelque chose, je le fais. Si ça ne m'apporte rien, vous pouvez rêver, hein, ne comptez pas sur moi. Donc nous devons servir par intérêt pour les autres. Soyons donc des serviteurs de Dieu, de Christ, de l'Évangile, de l'Église, et ne soyons pas des serviteurs de nos intérêts, de nos idées ou de la division. Avoir un cœur de service. Un cœur de miséricorde aussi. Je vais aller très vite là-dessus, mais c'est l'idée que dans le service de Dieu aussi, nous devons être des gens miséricordieux. Parce que l'Église est un lieu où cohabitent des pécheurs, sauvés par grâce, avec des défauts, avec des erreurs, avec des péchés, avec des faiblesses, avec des ratages. Et l'Église, c'est ça. Nous devons donc servir avec un cœur de miséricorde pour les autres. En étant capable de passer sur les erreurs des autres, en étant capable de ne pas nous tenir à notre rancune, à notre agacement, mais de pouvoir faire miséricorde. L'Église est appelée à être miséricordieuse à l'image de son Père. Et vous savez, dans cet élément-là, ça se voit le plus dans une Église quand il y a un scandale. C'est quand il n'y a pas de scandale, tout le monde voit ce que c'est. Hein. Mais quand il y a un scandale, c'est là qu'on voit les gens qui ont un cœur de miséricorde. Une vraie miséricorde de ceux qui peuvent pardonner les erreurs des autres. De ceux qui peuvent se pencher sur ceux qui souffrent. Sur ceux qui ont glissé peut-être dans un péché tout à fait horrible, mais qui peuvent avoir un cœur de miséricorde. Et de ceux qui relèvent. Pas de ceux qui colportent. Pas de ceux qui se moquent, pas de ceux qui se réjouissent, mais de ceux qui relèvent celui qui est par terre. Et ça manque parfois aux personnes qui servent dans l'Église. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Jésus a dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien portants. Nous sommes une bande de malades. Enfin, vous êtes une bande de malades. Donc, nous sommes des malades. Nous sommes des gens qui avons besoin d'être aidés. Nous sommes des gens qui trébuchons. Mais quand tu sers dans l'Église, tu dois le savoir, ça. Tu dois tenir compte de ça, que oui, c'est pas facile. Il y a des gens qui essaient et qui ratent et ils font des bêtises et ils font à côté. C'est ça aussi. Nous sommes des témoins et des partageurs de la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Autre élément important, quand nous servons dans l'Église, nous devons avoir un cœur pour l'unité. Tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu, doit avoir un cœur pour l'unité, une volonté d'unité. Nous devons être des gens qui s'attachent à l'unité de notre communauté. Et cela signifie que nous devons protéger à tout prix la communion fraternelle, que nous devons valoriser l'unité de chacun d'entre nous et éviter l'esprit de chicane et l'esprit de dispute. Alors, l'esprit de dispute, c'est pas le fait qu'il y ait des désaccords. Ça, c'est pas l'esprit de dispute. L'esprit de dispute, c'est les gens qui aiment bien créer des discussions partout et qui ont des attitudes qui ne sont pas des attitudes qui rassemblent, des attitudes de désordre. C'est ça qu'on appelle l'esprit de dispute, l'esprit de chicane. L'amour des débats, l'amour des discussions, des controverses. On n'est pas au Parlement ici. Hein. On est dans une église. Et donc nous devons avoir un cœur pour l'unité et avoir des attitudes qui sont de nature à promouvoir l'unité. Il y a des gens qui ne voient qu'eux-mêmes et ils ne s'occupent pas de l'unité. Donc vous avez des gens comme ça dans des églises qui sont même pas conscients, hein, des gens qui servent et qui sont complètement dans une autre galaxie. Et donc, une fois qu'ils sont pas contents, ça c'est aussi pas inventé, hein, des gens qui en plein culte vont faire des scandales. Je ne suis pas d'accord. En plein culte. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'occupe pas de l'unité, on ne s'occupe pas des intérêts de Dieu, on s'occupe de ses petites idées à soi. Nous devons avoir un cœur pour l'unité et nous devons penser au peuple de Dieu. Nous devons penser à l'unité des enfants de Dieu. Et donc être capable de nous écraser pour la paix. Si une église est en paix, c'est qu'il y a des gens qui s'écrasent. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des raisons de se diviser. Il y a toujours des raisons de se diviser. Il y en aura toujours. Mais il y a des gens qui acceptent de passer au-dessus, de continuer à avancer et de voir plus que leurs propres intérêts personnels. J'arrive tout doucement à la fin. Nous devons donc aussi veiller à un certain nombre de choses, la maîtrise de soi, la capacité à nous maîtriser dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans comment nous agissons, la maîtrise de notre langue, notre capacité à être discret. Si j'ai vu Elisa de la semaine, par exemple, imaginons que j'ai vu Elisa à la place de la digue en train de tabasser une fille. Mais j'imagine. Ben, si j'arrive le dimanche et que je dis Anthony, t'étais là à la place de la digue jeudi, parce qu'Elisa, elle y a été, hein. Et puis que Anthony dit non, j'étais pas là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, Elisa a frappé une fille sur ah oui, ok. Et puis après Anthony, ah Maxime, t'es pas au courant? Non. Elisa, oh, elle a fait un truc incroyable. Elle était dessus, vraiment, elle n'arrêtait pas. Et en plus son père est militaire, donc il lui avait appris toutes des techniques pour voilà. Hein, ben oui, mais c'est, alors là c'est un exemple, mais c'est ça qui tue aussi nos églises, des gens qui ne savent pas se taire. Oui, tu l'as vu, oui, tu es au courant, mais tais-toi. Tais-toi en regardant ce qui est plus important. D'accord ? Alors, j'insiste aussi, parce que certaines personnes comprennent mal cela, quand on dit tais-toi, c'est être capable de garder des confidences et de garder des choses qui ne doivent pas être dites. Tais-toi, ça ne veut pas dire couvre le mal. Hein ? Ça ne veut pas dire, comme ça a été le cas, si quelqu'un a vécu des abus sexuels, ne dit rien. Et... Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que tout le monde sache. Et que donc, il n'y a pas d'intérêt, et donc je me restreins à me taire parce que ça n'a pas d'intérêt. Même si je n'ai pas une obligation de secret pastoral, mais si je sais que ça ne va pas faire du bien aux autres, eh bien je me tais. Ou si j'ai à le dire, je le dis dans un bon cadre, à la bonne personne, au bon moment. Ça aussi, c'est ce qui participe à ce qu'une église avance. Mais aussi être intègre, agir dans la transparence et dans l'honnêteté. Enfin, je finis en disant que nous avons parlé des attitudes, des comportements, des qualités. Mais enfin, une chose très importante, c'est que nous devons donner la priorité à notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle doit passer avant notre service. Notre relation avec Dieu doit passer avant notre service. C'est à Marthe que le Seigneur disait « Tu t'agites pour peu de choses, une seule chose est nécessaire, être à mes pieds. » Notre relation avec Dieu, dans la prière, dans l'attachement à sa parole, doit passer avant notre service, parce que c'est de là que notre service va porter du fruit. Nous devons d'abord être aux pieds de Jésus, l'écouter, chercher sa face, aimer sa présence, ou en tout cas nous battre, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais nous devons avoir en tête que ça doit être prioritaire. Ça doit passer avant le service. Avant de nous affairer à servir, nous devons nous occuper de notre relation avec Dieu. Nous devons nous occuper de notre sanctification, nous occuper de notre mise à part pour Dieu, de notre crainte de Dieu. Nous devons nous mettre à part dans nos pensées, dans nos actions, dans notre comportement, dans nos choix de vie, nos habitudes, dans notre vie de tous les jours. Nous devons nous sanctifier. C'est important. Ça vient avant le service, ça. Dieu ne veut pas de gens qui le servent à un quart et qui sont un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans l'occultisme. Non, Dieu veut des gens qui se mettent à part pour lui. Nous devons donc nous séparer aussi d'avec les pratiques du monde, rejeter les œuvres mortes, rechercher les choses saintes. Nous devons veiller sur notre témoignage si nous voulons servir dans l'Église. Quel comportement j'ai avec les membres de ma famille non-croyants, envers mes collègues? Quel message je donne par ma vie aux personnes autour de moi? Quel témoignage je donne en dehors de l'Église? Ce sont des questions importantes. Et nous devons aussi donner priorité à la parole de Dieu dans notre vie, à la parole de Dieu. Nous devons donner priorité à la lecture et à la méditation, l'étude de la parole de Dieu. C'est de là que notre service vient. Il y a des gens qui servent et qui ne comprennent pas toujours parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ah, et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Et pourquoi? Parce que nous devons d'abord être des gens qui nous attachons à ça. Nous devons chercher à avoir une connaissance de la parole de Dieu, mais aussi, et par-dessus tout, à la mettre en pratique. Avant de servir, c'est ça que nous devons regarder. Nous devons aussi respecter l'autorité de la parole de Dieu, c'est-à-dire avoir une conviction dans l'autorité des Écritures. Et nous devons être des gens qui respectent l'Écriture, qui respectent la parole de Dieu. Puisque l'Église est le lieu où la parole de Dieu a autorité, où la parole de Dieu règne. Et nous devons aussi être présents au moment où on expose la parole de Dieu dans l'Église locale. Nous devons être présents à ces moments. Notre vie de prière est importante. C'est aussi là le terreau de notre service. Notre vie de prière personnelle, les temps pendant lesquels nous développons une relation avec Dieu. Notre vie d'intercession, intercéder, prier pour les autres, prier pour l'Église. Tout ça, c'est du secret, mais ça vient avant tout service que nous pourrions accomplir devant Dieu. Et enfin, la vie de l'Esprit. Nous devons chercher à être sensibles à la voix de Dieu. Tout ce que nous faisons ne sert à rien si le Saint-Esprit ne nous dirige pas. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons chercher à ce que le Saint-Esprit nous conduise. Être capable de nous laisser guider par le Saint-Esprit, quel que soit ce que nous faisons. Si nous avons à choisir des chants pour le culte, demandons à Dieu quel chant. Si nous avons à prendre des décisions, demandons à Dieu. Si nous avons à gérer les finances, demandons à Dieu. Si nous avons à gérer le bâtiment, demandons à Dieu. À faire une leçon d'école du dimanche, demandons à Dieu. Nous devons dépendre de son esprit, parce qu'il n'y a que ce qui vient de Dieu qui porte du fruit. Nous devons chercher à agir dans la puissance du Saint-Esprit aussi. Pas par nos forces, pas par notre éloquence, pas par notre capacité, mais par l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capables d'eux. Et nous devons rechercher la direction de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Et nous laisser transformer par cet Esprit qui nous habite. Que cet Esprit qui nous habite puisse non seulement nous guider, nous fortifier, nous conduire, mais aussi transformer notre être. Et que l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous continue. Que nous ne nous arrêtions pas sur le banc en disant « maintenant c'est fini, je sers », mais que nous continuions à être des gens qui nous laissons transformer par Dieu pour pouvoir le servir d'une façon qui lui plaise. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse notre communauté, et que Dieu bénisse tous ceux qui servent actuellement et tous ceux qui bientôt aussi serviront le Seigneur. Amen. Nous allons chanter en réponse à ces enseignements, puisque nous clôturons, j'avais dit qu'en 2021 on terminerait ça. Alors, je répète aussi que je vous invite vraiment à méditer ces choses pour qu'en 2022 on parte sur de bonnes bases. Et parce qu'on fera allusion à ces choses aussi, à ces principes. Dans la vie de l'Église, nous y ferons allusion, parce que c'est important que nous puissions avancer. Et nous donc, nous allons chanter le 241 dans les recueils de cantiques. Nous voulons vivre l'unité.